Salut tout le monde, nous revoilà encore YouTube Space, et cette fois-ci ça va être pour un débat sur Final Fantasy XV. Et pour ce débat, je suis en compagnie de Bastien du site FF Ring.
Salut.
Je suis en compagnie de Jérémy du site FF World.
Salut.
Et de Jérôme de FF Dream.
Bonjour.
Et vous le connaissez sûrement, mais voici Cristiano Ronaldo de Finaland.
La star.
La star, bon, voilà. Donc, je vais d'abord vous poser une question très très simple pour Final Fantasy XV. Le débat va se passer sur deux parties. Une première sur le jeu, sur ses points forts, ses points faibles, et ensuite sur le développement qu'il a eu pendant ces 10 dernières années.
Donc c'est un podcast de 3h30, hein, c'est ça?
C'est 3h30, on va essayer de raccourcir ça, mais c'est pas très loin. Donc, première question que je te posais, Bastien. Quels sont les points forts du jeu, à ton avis?
Alors, les points forts de FF15, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé l'aventure, c'est l'immensité de l'open world. Mine de rien, c'est quand même le premier FF à s'aventurer dans un monde aussi ouvert. Donc je pense que même s'il a des défauts, même si on peut trouver des choses à redire dans la façon dont l'open world est construit, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le monde est assez grand. Pour ce qu'on a l'habitude dans Final Fantasy, et surtout il y a des panoramas qui sont assez exceptionnels. Donc moi ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, et notamment le travail sur la lumière qui confère à la direction artistique une vraie une approche qui moi m'a beaucoup touché dans le jeu.
Et vous partagez tous ce point?
Oui, absolument.
Clairement, ouais.
Mais donc finalement c'est Final Fantasy XV, bah, qu'est-ce qui fait que c'est un Final Fantasy dans son ADN ou dans sa conception? Jérémy, par exemple.
C'est une question vachement compliquée, en fait.
Mais finalement ouais. Qu'est-ce qui fait que tu joues à un Final Fantasy et pas à un autre RPG? Qu'est-ce qui fait que ce jeu ressemble à un Final Fantasy et pas à un autre?
Sur celui-là, c'est étonnant parce que moi, j'aurais été capable de répondre pour d'autres. Mais là, pour sur le 15, j'ai vraiment du mal à trouver une réponse évidente comme ça sur qu'est-ce qui en fait un FF dans son ADN. À mon avis, c'est comme pour tous, l'état d'esprit dans lequel il a été conçu. Mais c'est très vague comme façon d'écrire un FF. Donc je...
On pourrait donner autant d'arguments sur pourquoi il s'éloigne aussi de la série, en fait. Parce que comme il s'occidentalise énormément, je pense que c'est un peu la conception qu'en ont les réalisateurs. Il a autant de liens d'atomes crochus avec la série qui s'en écarte. Je pense qu'effectivement, dans son développement, dans son ambition de faire quelque chose de complètement nouveau, ça, il le réussit bien.
C'est une occidentalisation tout de même, plutôt en termes de game design, de concept global du jeu, pas d'approche stylistique. Il est quand même très japonais dans l'esprit.
C'est vrai qu'on retrouve, comme l'a dit Bastien, on retrouve évidemment le monde fantastique qu'on recherche dans les FF généralement, avec des créatures extraordinaires, des choses comme ça.
Les mythologies communes aussi.
Voilà, et puis il y a aussi le lien avec le héros principal qu'on suit dans l'aventure. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous les FF. Après, c'est sûr qu'il y a un côté plus occidental dans celui-ci, mais...
Je pense qu'on retrouve toute la mythologie peut-être dans le dernier tiers du jeu où très clairement ce que l'on voit à l'écran c'est absolument du FF. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais la fin du jeu est FF. On ne pouvait pas faire à mon avis plus Final Fantasy et plus exceptionnel à mon avis dans la façon dont le jeu se termine. Donc en ça je pense qu'il tient vraiment ses promesses.
Je vois. Mais finalement les dernières productions de Square Enix vis-à-vis de Final Fantasy ont été assez mitigées ou parfois vis-à-vis de certains fans étaient pas du tout en accord avec la licence. Finalement ce Final Fantasy XV l'est plus que les dernières productions ou...
Je pense pas, FF14 par exemple répond tout à fait à la charte Final Fantasy, même si la première version du jeu a peut-être fait pas mal d'erreurs. Je pense que les derniers FF ont tous quelque chose de Final Fantasy. Ça se traduit un peu différemment à chaque fois.
D'accord. Bah, tu mets surtout le doigt sur le fait qu'on a tous une vision assez différente de ce qu'on attend et voilà.
Exact.
Moi par exemple, tu me parles d'FF13, il y a des choses qui m'ont beaucoup comblé dans ce jeu, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde.
Chaque FF, chaque directeur a sa vision de ce qu'il veut faire aussi.
Mais c'est vrai que globalement, à partir du 10, il y a eu des gros changements, une volonté de changer certaines choses et certaines personnes ne s'y retrouvent pas. De nouvelles personnes pensent y retrouver le Final Fantasy qu'ils aiment dans ces nouveaux jeux. plutôt que...
Et je pense que c'est un peu la difficulté d'ailleurs pour les réalisateurs successifs de la série, c'est qu'ils essaient à la fois de traduire un peu leur vision, leurs ambitions, tout en voulant contenter peut-être des publics qui sont hyper variés. Nous-mêmes, tous les quatre, tous les cinq, même, on a des attentes complètement différentes. Certains ici attendent peut-être FF7 Remake, ça serait l'objet d'un autre débat, d'autres peut-être un peu moins. C'est pas pour aujourd'hui, sinon le podcast va vraiment durer longtemps. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la série. C'est-à-dire que là où d'autres séries, d'autres grandes sagas du jeu vidéo essayent toujours de respecter une certaine charte, on va dire, FF peut, parce que dans son ADN a envie de se renouveler systématiquement, peut faire le pari de changer complètement sa vision.
Et le fait est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est comme ça sur tous les épisodes. On peut très bien en aimer un et le suivant, on va le trouver beaucoup plus attirant parce qu'il sera très différent.
C'est un FF pour les fans et les nouveaux venus.
Voilà. Et après aussi, ce FF-là était présent dans nos esprits depuis déjà 10 ans, c'est surtout ça.
Bien sûr.
Ouais. Mais finalement, là c'est encore tôt, mais si dans 10 ans, projetez-vous dans 10 ans, qu'est-ce que vous retiendrez de ce Final Fantasy ? Par exemple, Jérôme, de ce Final Fantasy-là, qu'est-ce que tu retiendras dans 10 ans ?
Je pense que je retiendrai quand même une longue attente. Je retiendrai aussi.
Tu parles des temps de chargement là, c'est ça. Pardon.
Ça dépend de la façon dont on joue, hein, qui ont duré à peu près 10 ans les temps de chargement.
Il faut rester dans les bons points. Reste dans les bons points.
Là, tu veux aussi parler des plus négatifs, hein, on n'est pas là pour rendre le jeu.
Je retiendrai quand même l'univers qui est toujours un nouvel univers à chaque fois. Donc, chaque FF est celui-ci est très marquant. Il y a vraiment une ambiance dans tout ce qui est le monde du Lucis, c'est vraiment donne vraiment un point où se référer. Et la musique. Je pense que niveau musique.
On
a un certain retour.
C'est sûr que dans les points forts, la musique, c'est évident pour tout le monde, je pense.
J'ai quelques réserves sur la question de la musique qui ne sont pas liées à sa qualité, parce qu'elle est de très bonne qualité, quoique il y a quand même pas mal de remplissages.
Alors, moi aussi, j'ai quelques réserves. On pourra parler de la façon dont elle est mixée.
Mais des réserves placées dans son utilisation, exactement. Ouais.
Placées dans le jeu.
Au point de vue du rythme. OST de jeu vidéo. C'est une OST qui est assez différente que ce qu'on retrouve. Hein. Elle est assez marquante, finalement, dans 10 ans, tu retiendras toujours que ce sera l'OST de Final Fantasy XV, hein, avec les premières notes et tout.
Ah oui, bien sûr.
Que ce sera l'OST
de ça, une question de style, il n'y a pas de souci là-dessus, effectivement, elle appartient à son jeu.
Ah oui, un style particulier. Et toi, tu penses qu'au niveau de l'utilisation, en fait, il y a des musiques qui n'arrivent pas au bon moment ou au bon endroit, par exemple ?
Ça, c'est contrasté, parce que, par exemple, l'utilisation des musiques d'exploration, le simple fait d'ouvrir le menu, ça te la coupe, elle ne se relance pas derrière. Ça, je trouve que c'est vraiment
tout à fait
aberrant.
D'accord.
C'est vraiment aberrant.
Il ne devrait pas y avoir de musique.
Ça casse le rythme un peu.
Là, c'est au niveau du développement, pas de l'OST directement.
Bah, c'est la façon dont il est intégré dans le jeu. Hein. C'est une question de, pas de développement, mais une question de design.
Ça, c'est un exemple. Moi j'en ai un autre, c'est par exemple, on lance la partie, un menu de chargement arrive, il aurait été de bonne aloi, je pense, de laisser la musique du menu.
C'est possible.
Plutôt que d'avoir un silence total.
Ouais. Mais c'est étonnant parce qu'il y a d'autres points sur lesquels la musique est intégrée vraiment super bien. Tout ce qui est en termes de combat et les derniers combats, l'intégration de la musique est hallucinante. On n'avait jamais vu ça dans un FF avant. Hein.
C'est vrai.
La façon dont les boucles s'enchaînent de manière logique, c'est vraiment très bien conçu.
Avec Kingdom Hearts par exemple.
C'est vrai que le combat final du 2 est comme ça, c'est vrai.
Oui, voilà, il y a quelque chose dans l'OST qui faisait assez Kingdom Hearts.
Bah, je trouve que les musiques, ça rend vraiment les combats épiques. Quoi. Ça, rien que la musique, déjà, rend les combats épiques, même si le combat peut être mauvais. La musique va te mettre dedans tout le temps, à chaque fois.
C'est vrai.
D'ailleurs, parfois, la musique est épique pour un combat qui, finalement, est torché en 10 secondes. Quand on commence à monter en niveau et qu'on se retrouve avec la musique la plus épique des combats classiques, on va dire, on peut avoir un certain décalage. Je pense que le côté open world aussi peut... On peut poser problème dans l'intégration de la musique parce que dans le design du jeu, certaines musiques vont se déclencher, comme on sort d'une zone. Tout ça peut nuire un petit peu à son intégration, mais la musique, je pense, en termes de qualité et de composition, elle est suffisamment variée, suffisamment belle.
Pas mal de remplissage, pas mal. Des pistes qui sont pas mémorables, mais ça c'est.
Très bonne.
En fait, ça dépend. Est-ce que c'est une échelle jeu vidéo ou une échelle Final Fantasy? C'est ça.
Sur quoi une échelle personnelle, en fait. Ouais, mais surtout, en fait, c'est la plupart du temps les musiques qui ne sont pas de Shimomura. En fait,
j'aurais dit ça à l'expert.
Les différentes musiques qui ont été composées par d'autres compositeurs, Tetsuya Shibata, Yoshino Oki, qui ont travaillé sur une 15-20 pistes environ, moins que ça. C'est pas toujours très mémorable. On sent que ça a été fait en plus parce qu'il fallait remplir des passages où Shimomura n'était pas sûr de pouvoir remplir ce genre de style. tout ce qui fait country, tout ça, c'est pas elle qui l'a composé. Donc,
ouais. Mais j'ai des réserves, je suis désolé, mais bon.
Si on devait, ta question était, qu'est-ce qu'on retiendra dans 10 ans? Je pense qu'on retiendra l'ambition d'un réalisateur qui a peut-être pas réussi à concrétiser tout ce qu'il avait en tête. Mmh. Je pense que c'est un peu ce qui nous a tous marqué, c'est que on a tous vu les défauts du jeu. Il y en a, ils sont indiscutables, voilà. Après, on a tellement une affection, je pense, pour le jeu, parce que ça fait 10 ans qu'individuellement, on écrit dessus aussi, et ça, faut pas l'oublier, c'est que ça fait 10 ans qu'on écrit chaque jour, quotidiennement, sur l'actualité de ce jeu, qu'on veille aussi.
Au point de s'en dégoûter, hein, d'une certaine
manière. Ah oui, au point de s'en dégoûter. Moi, clairement, j'en avais plein le cul à partir du mois de juin. Je pense qu'on est...
Faut pas dire de grossièreté.
Si, on en avait plein le cul. et du coup, ça, je pense que cette affection qu'on a, parce qu'on a rencontré aussi le réalisateur plusieurs fois, qu'il est en plus très sympathique, je pense que ça peut nous permettre de comprendre un peu mieux comment le jeu a été conçu et d'être peut-être un peu plus clément avec le jeu, alors qu'un joueur qui ne connaît pas comment le jeu a été développé, qui arrive dedans, qui ne connaît pas la série, pourra être un peu déçu, surpris.
Non, mais c'est... Ou pas d'ailleurs. Hein. Ah, moi, je pense qu'il pourrait au contraire être... plutôt, hein,
je dirais. C'est paradoxal justement, parce que vu que nous on connaît le développement depuis ses prémices, on sait aussi ce qui a été bâclé, ce qui a été raté, ce qui manque au jeu par rapport à ce qu'il y avait par exemple pendant les 10 ans. On se rend mieux compte de ce que aurait pu être le jeu, et finalement pour moi ce que je retiendrai dans 10 ans, c'est peut-être le mot frustration. C'est que le jeu aurait vraiment pu être exceptionnel, et qu'au final, avec tous les problèmes qu'ils ont eu et les retards, etc., le jeu a été un petit peu mal fini, et aujourd'hui on a un jeu qui peut être un peu décevant pour certains, mais alors qu'il aurait pu vraiment être gigantesque.
Mais donc finalement pour toi, qu'est-ce qui manquerait au jeu pour qu'il soit meilleur?
2 ans de développement.
C'est ça aussi le problème. Les jeux sont de plus en plus énormes, ça demande de plus en plus de gens.
Quand est-ce qu'on s'arrête?
C'est quand est-ce qu'on s'arrête, exactement. C'est ça le souci.
C'est vrai qu'on a l'habitude avec les Final Fantasy d'avoir des Final Fantasy toujours très finis, et toujours vraiment en produit fini quand ils sortent en boutique. Et là, on a toujours des petits détails, des petits machins qui vont pas. On n'a pas l'habitude de ça. Nous, on les voit, ces détails.
C'est un peu le seal of quality qu'on avait chez Nintendo pendant un temps, et on a l'impression de pas vraiment être en présence d'un jeu Square Enix tel qu'il pouvait les terminer et les chignoler à une époque. Alors je parle pas du 14 qui pour le coup a eu 2 développements différents.
Tout à fait. Mais justement c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent plus se permettre de faire ça maintenant. Ouais. L'époque a changé et les jeux demandent tellement de temps et tellement de main d'œuvre, tellement de budget aussi, faut pas oublier ça, que soit ils revoient à la baisse leurs ambitions et c'est pas ce qu'ils ont voulu faire cette fois-ci, soit ils sortent un jeu qui manifestement n'a pas pu concrétiser l'intégralité des ambitions qu'ils voulaient.
Et je pense qu'on est de plus en plus dans une logique aussi de... c'est pas un MMO offline, mais il le voit un peu comme un jeu service. Alors c'est pas non plus Hitman, hein, qui lui a été conçu complètement comme ça, mais voilà, ils vont ajouter des choses, ils vont faire un festival en janvier à durée limitée, je crois que c'est la première fois dans un RPG, dans un FF c'est sûr, mais surtout dans un RPG qu'on a des événements, un RPG qui est pas online à la base quand même, qu'on a des événements à durée limitée, ils vont ajouter des patchs, ils vont ajouter des contenus, ils vont réparer des erreurs aussi, ils l'ont avoué eux-mêmes, il y a des choses qui vont pas, on en reparlera peut-être après.
Il y a quelques jours, Tabata disait même encore qu'il travaillait sur une sorte d'extension inconnue dont il voulait pas parler sur le 15.
Sur des fins multiples ou quelque chose de...
Ça c'était pour les DLC plutôt, les fins multiples.
Mais donc finalement, j'ai pas eu ta réponse pour qu'est-ce que tu retiendras dans 10 ans vis-à-vis de ce Final Fantasy 15.
Moi je trouverais ça décevant quand dans 10 ans on retienne une frustration et 10 ans de développement, parce que ce serait réduire le jeu à ce qui s'est passé avant sa sortie et pas ce qu'il est en tant que jeu. Donc c'est vrai, le jeu est la victime de ce qui s'est passé pendant son développement, ça c'est sûr. Moi j'avais envie quand même de lui chercher ses qualités intrinsèques, de me dire il y a peut-être des gens qui vont arriver dessus, qui l'ont jamais entendu parler avant, qui vont dire waouh, c'est impressionnant comme jeu. Et moi je veux pas oublier le fait qu'ils ont relevé un défi impressionnant, c'est de faire un open world dans le contexte de FF, dans un contexte où on sait que les jeux japonais ont périclité pendant la génération précédente. Là ils reviennent avec un jeu superbe, impressionnant, spectaculaire. Je me dis ça c'est quand même bien de ne pas négliger cette partie là, et j'aimerais bien que dans 10 ans on se souvienne, FF15 c'est celui qui a voulu être un triple A moderne, quoi.
Qui a relancé la licence au goût du jour.
Enfin, l'histoire de relancer la licence, moi j'aime pas trop.
Bah, c'est... Pas licence,
pour le grand public, certainement.
Il a défriché l'open world pour FF.
Qui a refait la formule, la FF, au goût du jour. au standard actuel des AAA.
Ouais. C'est sûr que c'est un tournant pour la saga, je pense. C'est le premier open world, c'est le premier qui est vraiment ouvert à l'Occident. Et on le ressent vraiment dans le jeu. Hein.
C'est pas garanti qu'ils refassent des open world systématiquement. Non. Moi, je serais d'ailleurs très pas surpris en fait que pour le 16, ils reviennent à un truc, si 16 il y a, mais qu'ils reviennent à quelque chose de complètement différent.
C'est pas étonnant que pour un FF17 ou 18, allant très loin dans le futur, mais qu'ils refassent de l'open world. Ça, c'est leur premier essai.
Ouais, bien sûr. Après, est-ce que l'open world sera toujours ce qu'attendent les joueurs? Moi, je suis de plus en plus allergique à l'open world. Parce que ça,
est-ce que l'industrie sera toujours sur le fixé sur open world? C'est bien, c'est le
c'est
jeu.
C'est vrai que c'est un peu la tendance du moment.
On peut voir aussi dans les jeux Nintendo, par exemple le nouveau Zelda qui est en full open world, ou même le nouveau jeu Mario qui semble être assez.
Mais ça, c'est parce que les Japonais sont en train de rattraper leur retard et ils le font en faisant comme les Occidentaux. C'est pareil avec le prochain Dynasty Warriors aussi, ils ont annoncé on va faire un open world.
Ils le font plus mal quoi, que les Occidentaux. Parce que je pense que Tabata a voulu vraiment faire un jeu occidental et il a un peu calqué ce qui marchait. Quoi.
Mine de rien, et c'est là qu'on retrouve l'aspect FF aussi, c'est certes un open world, mais qui dans son dernier tiers, deuxième moitié, se focalise sur l'histoire. Parce que open world, ok, mais on va pas tomber dans l'erreur de l'open world qui a du mal à délivrer une histoire. Alors il y a des jeux qui le font très bien, et Rockstar le fait assez bien d'ailleurs.
Finalement, parmi les critiques qu'on peut entendre dans le jeu, finalement, l'open world quand même noie une partie de la narration et du scénario.
Je pense pas parce que l'open world il est dans la première partie et la narration dans la première partie c'est alors il y a des trucs un peu étranges. Le roi est mort, faisons des selfies. On est d'accord, il y a des choses qui sont un peu étranges. Mais par contre, je pense pas parce que la première partie du jeu c'est découvre cet univers. On a un univers qui est hyper impressionnant, hyper important. On te lâche dedans, c'est guidé. Il y a quelques événements qui se passent, mais pour moi le vrai déclencheur c'est l'arrivée à Alticia et c'est à partir de là que tout va vraiment se déployer. Ouais.
Plus que le noyer le scénario, je dirais que ça le dilue plutôt en fait. Surtout c'est la façon dont tu y joues, parce que tu peux aussi bien attendre la fin avant de faire toutes les quêtes secondaires, mais tu peux très bien les faire tout de suite dès le début. Mm-hmm. Ça veut dire que tu auras les éléments du scénario vont être de plus en plus éloignés les uns des autres si tu choisis de jouer comme ça. Et ça malheureusement c'est quelque chose que tu peux pas éviter dans un open world, parce que le joueur s'il est libre de faire ce qu'il veut, et ben il peut faire ce qu'il veut, tout simplement.
Il y a deux façons de jouer au jeu. Hein. Oui. Moi j'ai fini le jeu deux fois. La première fois en ligne droite, donc je l'ai torché à 22h. Oui. Et la deuxième fois où j'ai essayé de faire toutes les quêtes annexes. J'ai abandonné au bout d'un moment parce que j'ai voulu refaire le combat final. Mais voilà, on peut très bien passer 25 heures à se focaliser que sur l'histoire et après prendre le temps d'aller chercher un camion à flageolet si on en a envie.
Justement, en parlant des quêtes annexes, votre avis, le jeu donc, est finalement un open world, donc il se devait d'avoir beaucoup de quêtes annexes. Mais parmi les critiques qu'on entend, c'est qu'elles sont assez répétitives. Mm-hmm. Tu partages cet avis ou bien...
Bah, c'est ce qu'on peut appeler un peu les quêtes FedEx, comme on dit. C'est-à-dire d'aller à un point A, un point B, faire des allers-retours, etc. à chaque fois. Mm-hmm. C'est un peu des quêtes de MMO, on peut dire. C'est un peu les mêmes quêtes qu'on a dans la FF14. Mm-hmm. Et après, ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que les quêtes n'ont pas vraiment de scénario, ne sont pas vraiment liées au scénario. C'est vraiment des quêtes voilà, exclu du scénario, où il y a vraiment des petites choses à faire assez simples, ou des petites chasses, ou des petits combats, de la pêche, et voilà, c'est vraiment de l'amusement, de l'entertainement, du divertissement, quoi. C'est pas vraiment lié à l'histoire, mais après, c'est vrai qu'il y a énormément de contenu. C'est un jeu auquel on peut passer vraiment 100 heures avant d'arriver au combat de fin, et toujours s'amuser, parce que c'est toujours prenant d'enchaîner les quêtes, et d'un petit peu, voilà, on découvre aussi le monde.
Si on est perfectionniste, il y a énormément de choses à faire, je pense, parce que tout à l'heure, le jeu fait un peu combler tous ceux qui veulent beaucoup d'activités à faire.
Je pense qu'en fait l'erreur serait de vouloir enchaîner plusieurs quêtes annexes à la suite, d'en faire plus de 5, parce qu'en fait mine de rien d'une quête à l'autre on peut en accumuler plusieurs, mais on a quand même tout ce système de voyage en voiture qui peut être un peu lourd au bout d'un moment, et clairement après 4-5 quêtes annexes j'ai envie de continuer de faire une quête principale parce que je pense que c'est un peu du masochisme de vouloir
quand
en faire
même
trop.
Le problème des quêtes pour obtenir de l'argent, les contrats. Ouais. Là par contre, faire des allers-retours pour aller tuer des monstres.
Ouais, on aimerait pouvoir.
Et puis même d'un point de vue d'équilibrage, je crois que c'est un des premiers FF où je vois qu'il faut surtout faire des missions, réaliser des contrats pour avoir de l'expérience, gagner de l'argent. Et les monstres, non. Les monstres,
c'est
très
vrai
peu.
Que c'est un des moyens de l'expérience.
Alors que les monstres, on pourrait aller chercher, par exemple, avoir un bestiaire dans le menu, aller chercher tous les monstres de la carte et gagner de l'expérience et de l'argent avec ça. Mais en fait, on ne gagne pas grand-chose, malheureusement.
Donc, dernière question pour clôturer cette première partie. à chacun, quel est par exemple votre plus gros regret vis-à-vis de ce jeu ? Du jeu, je parle pas du développement, du projet, je parle vraiment du jeu.
On va commencer par toi, Jérôme.
Mon plus gros regret, je pense, c'est la façon dont l'histoire est racontée. C'est la narration. Je pense qu'elle méritait mieux que ça. On sent qu'il y a des morceaux de scénario qui ont été mis en place par Nomura. Et ça ne va pas plus loin. Et quand on arrive à la fin du jeu, on se rend compte qu'il n'y a personne d'autre que Hardin. Que pendant toute l'histoire, ce qu'on nous a raconté, c'est... Donc, moi, j'ai eu le problème de la dilution du scénario parce que j'ai fait beaucoup de quêtes. Mais j'ai eu un vide global où je me suis dit mince, c'est déjà fini. Et j'ai eu l'impression de ne pas voir grand-chose au niveau scénaristique. Et peu de retournements, peu de choses à découvrir.
Aussi parce que ça ne dure que 20 heures.
Ça, ici, voilà, en quête principale, le jeu se boucle en 20 heures. Mm. Sachant qu'arrivant.
C'est une bonne preuve qu'il ne faut pas y jouer en bourrant non plus. Hein. Oui, c'est pas comme ça qu'il était conçu.
Mais du coup, moi, le plus gros écueil du jeu, comme je le partage aussi, c'est clairement sa narration. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est en mode spoiler, hein, on est d'accord. Pour moi, pour moi, le chapitre 13 est incompréhensible dans la façon dont il amène certaines réponses. Mm-hmm. Et moi, je suis passé à côté d'un élément fondamental dans mon premier run, qui est que le démon qui nous poursuit dans le chapitre 13, c'est l'empereur. Et c'est indiqué dans deux sous-titres. Il y a une fois où c'est dit à l'oral, mais...
On l'entend.
Ouais. C'est Ignis qui le dit après l'avoir vaincu.
Exactement, Ignis, ouais.
Après l'empereur par la voix en voix off.
Avant le combat, Noctis dit c'est ce qu'il reste de l'empereur. Voilà. Et à la fin, on entend l'empereur parler. On entend cette voix démoniaque parler et c'est sous-titré Iedolas. Mais voilà, sinon on passe à côté de cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il se termine comme ça ?
Il y a aussi d'autres points vis-à-vis l'empereur des soldats Magitek, de l'origine de Prompto, ou de Ravus, de sa mort.
Mais justement, l'empereur et même l'empire en général, c'est censé être l'antagoniste principal. C'est ce qu'on nous a vendu dans King's Glaive.
Dans King's Glaive, dans le film, oui, bien sûr.
Exactement. Ouais. Dans King's Glaive, on se demandait vraiment comment il allait vaincre l'empire. Et finalement, dans le jeu, on se rend compte que l'empire, il s'est vaincu tout seul, que nous, on n'a rien fait. Donc, on a même pas croisé l'empereur, on n'a même pas croisé personne. Enfin,
c'est intelligent d'un point de vue.
D'une certaine manière, je trouve pas ça. Enfin, c'est vrai que c'est dommage, ça c'est évident que c'est dommage parce qu'on nous explique rien, qu'on comprend pas grand chose. J'ai trouvé ça assez marquant le chapitre 13, il m'a pas dérangé autant que toi. Évidemment, il était un peu long, ça c'est le truc. Mais t'arrives dans cette ville complètement vide, complètement morte, noire, plongée dans le noir où il y a rien. Je trouvais qu'en termes d'ambiance, c'était tout d'un coup, t'arrives dans une ville où tu te dis, finalement, c'est.
Moi j'ai bien aimé ce chapitre. Hein. Ouais. C'est vrai, ça m'a rappelé des vieux donjons, des anciens FF avant le 7. Ou par exemple la tour de Babel ou des cavernes, etc. Où c'est vraiment... c'est long, quoi. Il faut y aller.
Ouais, puis une tension, quoi.
Moi, ça me rappelait surtout...
Sauf que c'est plus simple. Mais il n'y a pas beaucoup de difficultés, malheureusement. Il y a plein d'endroits pour dormir et pour sauvegarder, tu sais pas trop pourquoi. Et tu comprends pas comment tu passes de la périphérie de la ville au centre de la ville. Avec tout le level design, en fait, tu comprends pas spécialement où tu es.
Et finalement, on n'est pas dans la ville, en fait. On est vraiment au centre de la ville, dans les juste
dans
en dessous
de
la forteresse volante, comme il l'appelle, même si on n'en a pas vraiment. Donc voilà. Mais moi, personnellement, c'est vrai que ce niveau m'a beaucoup fait penser à Final Fantasy VII, au niveau, par exemple, de la tour Shinra.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Ouais. Toute l'ambiance un peu glauque qu'il y avait, je trouve ça très ressemblant.
Et au-delà des manques et des trous scénaristiques pour les dessins de certains personnages, moi, ça me révolte pas parce que je suis pas non plus au point de faire une manif, mais ce qui m'a énormément gêné, c'est d'avoir des trous scénaristiques où Gladiolus s'en va pendant une heure, il revient, il a une balafre, ok, ça sera le DLC de Gladiolus, on a compris. Ignis se retrouve aveugle. Alticia, ok, bon bah on imagine que ça sera dans le scénario. Alors, ajouter des DLC, pourquoi pas, mais si c'est pour amputer le scénario principal, là, moi, ça me pose vraiment problème.
Et en plus, ça semble forcé comme ajout.
Oui, Prompto, pareil, hein, d'ailleurs.
Un DLC par personnage, ça semble forcé. Mmh.
Ouais, bien sûr.
Totalement, mais il y a plein de choses qui sont forcées en fait.
Par contre, d'ailleurs, parenthèse, mais ce qui arrive à Ignis, je trouve que dans la relation avec les personnages, c'est hyper bien traité après.
Ouais, moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort que ce qui arrive à Luna.
Oui.
Voilà, je trouve que personnellement, j'ai été vraiment attaché à ce personnage depuis un bon bout de temps. beaucoup plus que le personnage féminin principal.
Ouais. Parce qu'on passe 20 heures avec eux et qu'ils discutent entre eux en permanence.
Soyons clairs, la partie sur le train, ça recoupe ce que tu disais sur le truc, le point négatif principal, c'est effectivement la gestion en chapitre est cruelle pour cette partie-là du jeu, ouais. Parce que voilà, ça la découpe alors que ça n'a pas lieu d'être. Par contre, l'ambiance de cette partie-là est vraiment très réussie.
Ouais, c'est vraiment excellente.
Et la façon dont les personnages tout d'un coup sont... Enfin, Gladius en a marre de Zermond de Noctis, Pronto qui est vraiment l'un de mes personnages préférés. Pronto, il est vraiment remarquable dans cette partie-là parce que tu sens toute sa fragilité, il a envie de faire quelque chose mais il n'en est pas capable. Et le fait que...
Le fait que quand tu t'éloignes, on te rappelle à l'ordre.
Ça a vraiment en plus influencé sur le gameplay, le fait de perdre Ignis dans l'équipe et de le voir... Enfin, il était beaucoup moins utile que ce qu'il était auparavant, et même, c'est pas du tout, surtout au début. Lorsqu'il est la première mission où on est dans les mines, ouais. Ignis est beaucoup moins utile que ce que.
C'est presque un boulet, quoi.
C'est un boulet, les
gars. On doit lui tenir la main et tout.
D'ailleurs, moi j'ai toujours. J'ai toujours. Je crois qu'on nous donne le choix, est-ce qu'il continue avec nous ou pas. Alors, j'ai toujours mis oui. Je sais pas si ça impacte quelque chose.
Il vient quand même, d'accord.
C'est un faux choix.
J'ai toujours dit non.
Faux choix. Bon, ça peut être un problème aussi. On nous offre des choix et finalement, c'est pas un jeu à choix multiples, quoi.
Ah, ça change l'expérience.
Il y a une scène à choix multiples à Laetitia et finalement, ça sert à rien à la fin, quoi.
Si, tu payes pas la douane. D'accord. Je l'ai fait la deuxième fois.
Non, mais quand tu parles à la chancelière, là,
à la chancelière.
Pendant des heures et des heures, et finalement.
J'étais hyper confiant, hein.
Tu es félicité d'avoir bien négocié, mais
il n'y a aucun changement de scénario.
Par contre, l'arrivée à Laetitia avec les douaniers, le choix que tu fais a un impact.
Bah oui, tu perds ton argent.
Voilà, la première fois, j'ai perdu la moitié de ma thune.
Moi, j'ai perdu tout mon argent.
Ouais.
J'étais fauché.
Ouais.
Mais ou sinon, avec le Léviathan, où donc, lorsqu'on arrive devant son œil,
oui.
Et qu'on a le choix de lui demander gentiment son pouvoir ou bien
d'insister
jusqu'à l'insulter, et ça influe. Après. C'est dommage que finalement ça influence pas tant que ça dans le combat parce que même s'il est dit dans une petite fenêtre comme quoi le Léviathan est devenu beaucoup plus puissant, mais finalement ça influence pas tant que ça. Mais après je trouvais que ce passage là
de toute façon le combat tu peux pas perdre donc que ça puissant encore.
Après finalement je trouvais que même si ils avaient pas lieu d'être, ils étaient quand même assez intéressants, ça apportait quelque chose de nouveau et de différent. Même lorsqu'on était à l'Estaloum ou qu'on devait se balader avec Iris, il y avait des choses, enfin ça portait un peu d'originalité à l'histoire. Mais donc on va terminer avec toi Arsène, ton plus grand regret pour Final Fantasy XV.
Ça regroupe un peu ce que vous avez dit, c'est surtout la narration, etc. Pour moi c'est vraiment un gâchis au niveau de son univers en général. Je pense vraiment que ça aurait vraiment pu faire un jeu, peut-être l'un des meilleurs Final Fantasy dans son univers, dans son monde, dans son background. Et dans le jeu, on trouve quasiment rien, quoi. Il y a vraiment très peu de choses expliquées, il y a vraiment très peu de... C'est vraiment pas du tout poussé, quoi. On voit vraiment qu'il y a il y a de la matière à faire, mais que dans le jeu, c'est effleuré. Et même au niveau des personnages, les personnages secondaires, on les voit quasiment pas. On n'arrive pas à s'attacher à eux. Donc pour moi, c'est vraiment un gâchis à ce niveau-là.
Faut écouter la radio, faut lire des magazines, faut écouter des PNJ qui parfois ont quelques conversations intéressantes, et il faut acheter le guide officiel qui regroupe toute la chronologie du jeu. On apprend des trucs complètement maboules dedans d'ailleurs.
Il y a des informations très bizarres, par exemple
le père
de Pronto.
Entre le background, les origines de certains personnages comme Pronto ou
le père de Pronto.
Le père de Pronto, littéralement, c'est la plus grosse révélation que.
Voilà,
et surtout, aussi, avec la. L'arbre généalogique des personnages, où tu vois qui est lié avec qui et de quelle manière, et tu as donc le père de Gladio et qui est toujours existant dans les scénarios. Donc assez surprenant de...
Les DLC, les amis.
Ça c'est pour revenir à ce que tu disais Arsène, effectivement c'est un autre point vraiment sur lequel j'ai beaucoup de regrets, c'est le fait que dans tous les FF avant et surtout à partir du 10, il y avait un effort énorme à porter à l'univers, le background qui était derrière, mais c'était toujours traité de manière plus discrète mais présente dans le jeu. Dans FF12 il y avait le dossier qui permettait d'avoir plein d'informations, dans le 13 c'était plus discret mais c'était quand même là, et là dans le 15 c'est très difficile de trouver toutes les petites bases mythologiques qui permettent de retracer la cosmogonie du jeu, quoi, ce qui vraiment pour moi fait beaucoup l'intérêt de tous les précédents FF.
Certaines infos sont dans les temps de chargement des débuts de chapitre.
Voilà. Même plus que ça, ça c'est pour la narration.
D'ailleurs,
je te parle vraiment de la genèse du monde, ce genre de détails. Il faut aller dans le tutoriel pour regarder les tableaux sur...
Oui, moi j'ai lu aucun temps de chargement parce qu'à chaque fois ça m'a spoilé les 10 premières minutes de la suite.
Donc voilà, cette première partie est finie.
J'ai un second regret quand même. D'un point de vue de la difficulté, on en a un petit peu parlé, ce jeu est facile.
Ouais.
Il n'y a pas de mise à niveau des ennemis. Alors je ne sais pas si l'open world est une contrainte technique pour ça. J'ai pas joué à The Witcher ou à d'autres jeux qui peuvent avoir à peu près la même structure. Mais par exemple, pour moi, le New Game Plus n'a aucun intérêt.
Il apporte rien.
Il apporte rien parce qu'on se retrouve dans un monde où tout est encore plus facile que dans la première run. Alors j'espère qu'ils vont revoir un peu ça. Je doute pas que l'ajout du New Game Plus, c'est juste une première pierre.
Je tiens à dire que même en faisant le jeu en ligne droite, le boss final...
Oui.
Et d'une facilité.
Il suffit d'avoir quelques potions, enfin quelques.
Voilà. Il y a une vidéo de quelqu'un qui l'a battu niveau 1, le boss de fin. De toute façon, ils ont toujours dit que le jeu était fait pour qu'on puisse battre les boss, même niveau 5 ou niveau 50. Si on joue bien, on peut se toucher.
J'ai eu beaucoup plus de mal contre Ravius que contre le boss final.
Oui, Ravius était.
Anormalement fort.
Ravius était compliqué, ouais.
Ah oui. Moi, j'ai pas eu de mal du tout. Ah, mais c'est parce que je suis arrivé assez tardivement.
Moi j'ai vidé mon avantage.
Déjà un bon niveau.
J'ai vidé mon avantage pour
ça. Moi j'ai terminé le jeu dans la première partie en ligne droite où j'étais niveau 40. Et donc c'est vrai que.
Niveau 40, 45.
Ravius était compliqué.
Ah oui, moi j'étais niveau 60, 65, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça.
Donc voilà, cette première partie est finie. Merci. Et on revient tout de suite pour la deuxième partie. A plus!